En esprit et en vérité 12 Le culte et l'autorité. Comment l'autorité s'exerce-t-elle dans l'assemblée? Quelle place joue-t-elle dans le culte? On ne peut répondre à ces interrogations sans prendre en considération le principe même de l'autorité tel qu'il est exposé dans les écrits bibliques. Pour les besoins de cette étude, nous devons replacer cette question dans le contexte de la Nouvelle Alliance et par rapport aux enseignements du Nouveau Testament. Il faut tenir compte, notamment, que dans le Nouveau Testament les relations entre l'autorité civile et l'autorité spirituelle sont modifiées, un tout jugement est dorénavant remis au Fils de Dieu. Et il n'appartient à personne de contraindre les hommes à se soumettre au Christ. Il n'appartient à personne de se poser en juge et exécuteur des décrets divins car, à présent, c'est le Fils de l'homme qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, confère Apocalypse 1h17, 18, et c'est lui qui a été choisi pour exécuter les jugements de Dieu, Matthieu 25, 31 à 33. Toute intolérance religieuse a sa source dans un mépris de l'autorité suprême du Christ et dans la présomption à vouloir exercer une autorité spirituelle qui n'appartient qu'au Christ. Quoi qu'il en soit, nulle créature, y compris le fils de David, ne peut jouir d'une autorité quelconque sans qu'elle lui ait été déléguée par Dieu ou sans qu'elle soit momentanément autorisée par Dieu. De là à un avant l'établissement de la Nouvelle Alliance, le fils de David n'avait pas encore reçu toute autorité dans les deux et sur la terre, Matthieu 28, 18, Éphésiens 1h21, l'allégeance qui est due partout à Christ met en cause les responsabilités de tous les hommes, grands et petits, qui devront rendre compte à celui qui est leur juge suprême, Actes 9h15, 16, 17h30, 31. De deux faut distinguer entre une autorité déléguée par Dieu et une autorité autorisée par Dieu. En effet, une créature peut usurper une autorité spirituelle, civile ou religieuse, confère 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, sans que Dieu s'y oppose. Mais, bien entendu, l'usurpation ou l'abus d'autorité sont passibles du jugement de Dieu, Matthieu 23h11, 12, confère 2 Pierre 5, 5, 6. 82, créature peut, elle aussi, déléguer une partie de l'autorité qu'elle a reçue de Dieu. L'Écriture montre bien que les anges et les hommes délèguent aussi une autorité. 3. Les autorités déléguées par Dieu. Nous pouvons distinguer entre les autorités qui sont déléguées par Dieu et celles qui le sont par les hommes. Parmi les autorités déléguées, ou simplement autorisées, par Dieu, l'Écriture fait mention des anges, des autorités civiles, des hommes et du Fils de l'homme. A. Les anges Dieu a délégués, ou autorisés, une autorité aux archanges, aux anges, aux puissances ou gloires spirituelles dans les lieux célestes. 2 Chroniques 18h18 SS, Job 1. 2, 1 à 10, Romains 8h38, Éphésiens 1h21. 2, 2, 3, 3h10, 6h10 12, Colossiens 1h16. 2h10, 15, Tite 3, 1. 1 Jean 3, 8. 4, 1 à 3. 5h19, Jude 8 à 10. B. Les autorités civiles. Les autorités qui légifèrent et exécutent la justice parmi les hommes sont voulues de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. 4. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais, si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les trois nous ne traitons pas en détail de l'autorité des anges, c'est-à-dire des créatures spirituelles dans les lieux célestes, Éphésiens 6h12 SS, confère Apocalypse 13, 4 à 8. Midi 17. 4. Le sens de l'original est qu'il n'est point d'autorité qui ne soit sous Dieu, upotou, et qu'il n'est point d'autorité sous Dieu, upotou, qui ne soit instituée de Dieu, fin du verset 1. 83. Magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Romains 13, 1 à 8, il est question, ici, de l'autorité civile, des magistrats, de ceux qui perçoivent l'impôt et font respecter les lois et la justice. Les magistrats sont là pour punir ceux qui font le mal et non ceux qui font le bien. L'apôtre n'entre pas ici dans le détail. Il n'explique pas que les magistrats peuvent, eux aussi, commettre des injustices et qu'ils sont responsables devant Dieu de leurs propres actes. Seul Christ possède toute autorité, Matthieu 28, 18. Les magistrats, ni aucune autre créature, ne peuvent prétendre à une autorité absolue. Paul écrit donc que la crainte, phobo, des autorités se justifie dans la mesure où l'on commet des mauvaises actions, Romains 13, 3. Paul a déjà traité de la question de la relation des disciples envers ceux qui les traitent injustement et leur font du mal, Romains 12, 17, 21, il ne faut jamais rendre le mal pour le mal, il faut rechercher ce qui est bien devant les hommes, il faut s'efforcer d'être en paix avec tous les hommes, il ne faut point se venger soi-même, il faut donner à manger et à boire à son ennemi, il ne faut pas se laisser vaincre par le mal mais surmonter le mal par le bien. Ce comportement exige que l'on soit soumis, comme le dit Pierre, à toute autorité établie parmi les hommes. 1 Pierre 2h13 SS. Paul dit que les autorités qui existent, ou qui sont, ont été ordonnées de Dieu. Or, c'est Néron qui, à l'époque, est le maître de Rome. Ce même Néron rendra les chrétiens responsables de l'incendie de Rome et les fera massacrer par milliers. À l'époque, c'est à ce Néron que l'on doit le tribuer l'impôt. Il faut donc reconnaître que le chrétien doit obéissance à l'autorité qui existe de fait. Et l'apôtre lui-même ne se situe pas, ni dans son enseignement ni dans son comportement, au-dessus de cette autorité de fait. Il faut rendre à César ce qui est à César même lorsqu'il s'agit de Néron, Matthieu 22h 17 SS. Mais comme nous l'avons dit, seul Christ possède toute autorité. De ce fait, seul Christ peut exiger l'obéissance absolue et incondie, 84, sionnel. Lorsque l'autorité des hommes vient contrecarrer celle de Dieu, il y a, bien entendu, un choix à faire. Les apôtres, qui étaient soumis aux autorités, devaient d'abord obéissance à Dieu, juger s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Acte 4h19. Il va de soi que l'obéissance à Dieu ne peut jamais être le prétexte d'une mauvaise action. On ne peut donc invoquer le spirituel pour frustrer le temporel de sa légitime autorité. C'est pour cette raison que Paul affirme que celui qui aime son prochain ne fait point de mal au prochain et accomplit la loi, Romains 3, 9 à 10.4. L'obéissance à Dieu consiste en l'obéissance à la loi de Dieu, et celui qui obéit à la loi de Dieu, celui-là ne peut pas craindre les magistrats puisqu'il agit avec justice. C'est l'autorité de l'homme dans la famille comme dans l'Église, Dieu a délégué une autorité à l'homme qu'il n'a pas déléguée à la femme, 5 Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, 3, 4 Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 2 Timothée 2h12 Femmes, soyez de même soumises à vos maris. 1 Pierre 3, 1 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Éphésiens 5h22, D. L'autorité des parents sur les enfants. Dieu a délégué aux parents une autorité sur leurs enfants. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur, Colossiens. 3h20, 4 Romains midi 17 à 13h14 traite du même sujet, c'est-à-dire des rapports des chrétiens envers ceux du dehors, y compris les autorités. Voir Rel Bonnet commentaire sur l'épître aux Romains et Émile Béroux, Genève 1852. 5 Et ceci ne veut absolument pas dire que la femme est inférieure à l'homme ou moins capable que lui, ou bien que la femme n'a aucun recours quand l'homme est injuste, ou encore que l'homme est autorisé à manquer de respect envers la femme. Comme dans le cas précédent, il n'est pas question ici d'une autorité absolue et d'une obéissance inconditionnelle. 85 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur, Éphésiens 6, 1, 4, E, la soumission au maître serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Éphésiens 6, 5 à 8, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. 1 Pierre 2h18, tout ceci ne signifie pas que les autorités sont intouchables ou qu'elles peuvent agir impunément à l'encontre de la justice. Il n'y a pas, notamment, de contradiction entre le fait de rester soumis aux autorités instituées de Dieu et le fait d'enseigner, de corriger, de convaincre, d'instruire dans la justice par le moyen des Écritures, 2 Timothée 3h16, 17. Par l'Évangile, nous exhortons tout homme en toute sagesse à se conformer au Christ, Colossiens 1h28, Romains 1h16. Le témoignage chrétien, par la parole et par l'acte, n'est donc pas un acte d'insoumission, car Dieu exige de tout l'obéissance à sa volonté et ne fait point exception de personne, Actes 10h34. Les apôtres ont été persécutés par les autorités en raison du témoignage qu'ils ont rendu à la vérité et non parce qu'ils étaient insoumis. Les autorités, magistrats, rois, parents, maîtres, ne peuvent donc se soustraire aux exigences divines sous prétexte de leur autorité. Et les disciples ne doivent pas craindre d'annoncer maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir. Actes 17h20. 2. Les autorités déléguées par les hommes. La délégation d'autorité est indispensable dans les affaires ainsi que dans les relations humaines. De tout temps, il fut même nécessaire à ceux qui avaient reçu une autorité de Dieu de déléguer eux-mêmes une partie de cette autorité. Moïse délégua lui-même une autorité à, 86, des hommes compétents afin que sa tâche puisse être facilitée, Exode 18h21-26. Ces hommes n'étaient d'ailleurs pas autorisés à modifier les ordonnances de la loi. En réalité, c'est l'autorité de Moïse, prophète de Dieu, qu'il faisait respecter. Lorsque, plus tard, les scribes se mirent à enseigner la loi de Moïse au peuple, Jésus ne contesta pas leur rôle. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Matthieu 23, 3. Du vivant de Jésus, les Israélites se soumettaient à l'autorité de Moïse en écoutant les enseignements de Moïse transmis dans les Écritures, et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Luc 16h30, 31. Les scribes n'étaient pas eux-mêmes au-dessus de l'observation de la loi de Moïse, et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. » Marc 7, 5 à 8. Jésus conteste les scribes et les anciens lorsqu'ils se mettent à substituer leur propre tradition à la loi de Moïse. Leurs traditions n'ont donc pas la même portée que la loi et n'ont pas à être observées par ceux qui veulent être agréables à Dieu. Moïse autorisa le souverain sacrificateur, Aaron, à déléguer une autorité au fils de Lévi pour tout ce qui touchait au culte et au tabernacle, Nombre 1h47-54. 3. La délégation d'autorité dans l'Église. En tant que chef de l'Église, Christ a délégué une autorité aux apôtres. 6. Christ a été exalté pour être Seigneur, Roi, Prophète, Médiateur, Prêtre, Juge, Actes 2h36, Philippiens 2h11, Actes 3h22, Hébreux 5, 4, 5, Actes 17h30, 31. Pour être ainsi, 87, Christ a délégué une autorité aux apôtres pour agir en tant qu'apôtre. Il est évident qu'il n'a délégué à aucun des 12 l'autorité d'être roi, prophète, souverain sacrificateur, seigneur et juge du peuple de Dieu. L'autorité des apôtres s'exerce, premièrement, dans le témoignage rendu au Fils de Dieu, notamment, à sa résurrection. Deuxièmement, dans les révélations qu'ils ont reçues pour l'instruction, l'édification et l'organisation de l'Église. A. Le témoignage apostolique. Les apôtres sont des témoins au sens légal et historique. Ils parlent de ce qu'ils ont vu et entendu, de ce qu'ils ont contemplé et touché de leurs mains, Conférentiens 1 SS, Luc 1, 2. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 15h27, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, Actes 1, 8. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, Actes 2h32, il témoigne, en particulier, du fait historique de la résurrection de Jésus. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Actes 10h41, 42. 13h31. Ce témoignage unique des apôtres a été confirmé, de leur vivant, par des signes, des prodiges et des miracles. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des exaltés Jésus dut satisfaire à toutes les conditions requises, Hébreux 5, 1 à 10, 1 Jean 1, 1 à 4, 2, 2, 1 Pierre 2h22, etc., et son exaltation correspond à une œuvre qu'il accomplit actuellement dans l'Église. De par le caractère propre de cette œuvre, nul ne peut l'accomplir à la place du Christ. Christ n'est pas remonté au ciel pour déléguer à un homme pécheur l'œuvre que lui seul est en mesure d'accomplir, il est bien le seul médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2, 5 SS. 88, prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, Hébreux 2, 3, 4. À proprement parler, nul ne peut aujourd'hui attester avec une telle autorité que Jésus a été établi juge des vivants et des morts. Ce sont encore les apôtres, ces témoins choisis qui attestent de ce fait. Tout ce qui est demandé des prédicateurs actuels, c'est qu'ils soient trouvés fidèles au témoignage historique des apôtres. B. La direction apostolique. Les apôtres ont aussi reçu des révélations qui concernent l'édification et la marche de l'Église. Ils sont inspirés au même titre que des prophètes, ils parlent en étant guidés par le Saint-Esprit, confère 2 Pierre 1h21. Jésus lui-même leur avait certifié cette prérogative, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14h26. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Jean 16h12-15, confère Marc 13h11. De par leur autorité en matière doctrinale, les apôtres sont constitués des juges du peuple de Dieu, Matthieu 19h28. Dans la vision de Jérusalem céleste, qui est l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église, j'en vois une muraille qui repose sur 12 fondements et sur ces fondements sont gravés les noms des apôtres de l'agneau, Apocalypse 21h14. Ainsi, l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes, Éphésiens 2h19-22. Paul est lui aussi un témoin choisi de Dieu, lui le dernier de tous les apôtres, 1 Corinthiens 15, 8, 9. Il fut en effet appelé après les 12. Paul tient à rappeler que ce ne sont pas les 12 qui l'ont enseigné ou qui l'ont éclairé sur la volonté du Seigneur, cela pour souligner l'autorité qu'il avait reçue du Seigneur lui-même, voir Galates 1, 2, 1h11, 12, 15 à 17, 1 Corinthiens 14h37, 2 Thessaloniciens 3h14, 1 Timothée 1, 1, Tite 1, 1, Éphésiens 3, 3 à 6. C. Comment on se soumet à l'autorité des apôtres? On se soumettait bien à Moïse par une conformité à son ancêtre. 89, Gnement, confère Malachie 4, 4, Luc 16h30, 31. On se soumet, de même, au Christ lorsqu'on conforme sa vie à sa parole, Jean midi 48, Matthieu 28, 19. Il n'en est pas autrement pour la soumission aux apôtres, on se soumet à leur autorité lorsqu'on se conforme à leurs enseignements contenus dans le Nouveau Testament. Ceci comprend les enseignements de Paul qui font partie intégrante des Écritures, confère 2 Pierre 3h15, 16, et ne doivent pas être considérés comme ayant une importance mineure ou négligeable. Bien entendu, les apôtres n'ont fait que communiquer à l'Église la volonté du Christ et non leurs propres interprétations de cette volonté. D'ailleurs, le dernier commandement donné par Jésus avant son ascension est significatif de l'œuvre des apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, 19. En quoi consiste l'œuvre des apôtres? À communiquer à tous les disciples, et ce d'une manière intégrale, la volonté du Christ. L'enseignement des apôtres, scellé de l'autorité du Saint-Esprit, ne pouvait être étranger à la révélation de Dieu, donnée en son Fils Jésus-Christ. Il, le Saint-Esprit, me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Jean 16h14, 15. L'enseignement des apôtres, même dans ce qu'il peut paraître avoir de nouveau par rapport aux évangiles, est la communication à l'Église de la volonté du Christ lui-même. Les apôtres ne sont que les porte-parole de la volonté du Christ et la totalité de leur enseignement est de par l'autorité du Fils de Dieu. L'Esprit, qui est aussi l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. Mais à travers cette œuvre de conviction, l'Esprit ne se glorifie pas lui-même, il ne glorifie pas les apôtres ou l'Église, il glorifie uniquement le Fils, Jean 16, 8 à 10, 14. C'est toujours l'Esprit qui parle dans l'Écriture inspirée de Dieu, 2 Timothée 3 heures 16 SS, et ce malgré la mort des prophètes qui ont reçu les oracles de Dieu. En ceci, les apôtres ne diffèrent pas de Moïse et de tous les prophètes qui parlent encore quoique morts, 2 Pierre 1 heure 19, 21. En se référant à l'enseignement apostolique, on ne fait que glorifier Jésus, d'où l'importance qu'il y a à rester attaché au Nouveau Testament. 90. D. Les apôtres ont-ils délégué leur autorité à d'autres hommes? À ce point de notre étude, nous pouvons nous poser une question capitale, les apôtres ont-ils délégué à d'autres hommes leur autorité apostolique? Or, la réponse du Nouveau Testament est claire, les apôtres n'ont jamais délégué l'autorité qui leur était propre. Ils n'ont jamais enseigné à la déléguer. Ils ont même contesté ceux qui, de leur vivant, s'arrogeaient l'autorité d'apôtre dans l'Église. Dans l'Église primitive on trouve déjà ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Apocalypse 2, 2. L'autorité apostolique, dans le Nouveau Testament, se limite aux apôtres, c'est-à-dire aux onze, à Matthias, le remplaçant de Judas, Acte 1, et à Paul qui reçut la charge apostolique après l'établissement de l'Église, 1 Corinthiens 15, 7 à 9, Galates 1 17. Ni les douze, ni Paul n'ont délégué leur autorité apostolique à quelqu'un d'autre. Nous n'en avons aucun exemple dans le Nouveau Testament. Aucun enseignement du Nouveau Testament ne l'autorise. Or, si la charge apostolique devait, ou pouvait, se transmettre d'homme à homme, cela se serait fait du vivant des apôtres, nous serions enseignés à le faire par les apôtres eux-mêmes. Le Nouveau Testament enseigne une primauté des apôtres, non seulement en fonction des particularités de la fonction apostolique, mais aussi dans le temps. Lorsqu'ils sont nommés aux côtés des anciens ou des prophètes, ils viennent toujours en premier, voir Éphésiens 2h20, 3, 5, 4, 11, 12, Actes 15, 2, 6, 22, Apocalypse 18h20. L'établissement de l'Église a commencé par celui des apôtres, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. 1 Corinthiens midi 28, l'apôtre précède le prophète ou le docteur car, par définition, l'apôtre, apostolo, envoyé, est un envoyé du Seigneur et non le prophète ou le docteur. Au sens large, le prophète désigne simplement quelqu'un qui proclame un message, en général d'origine divine, bien que le terme soit employé dans la littérature profane. Cet le mot docteur désigne simplement quelqu'un qui enseigne. Mais les douze sont des apôtres, et ce dans un sens unique car ils s'étarnent des cinq riches, Creek English Lexicon, page 730 conférent. Titus 1:12 est l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi toujours menteur, méchante bête. » 91, ont été choisis puis envoyés par le Seigneur en personne. Ils sont, tout comme Paul, apôtres non de la part des hommes mais de Dieu, virgule Galates 1, ils sont les apôtres du Seigneur ou de Dieu, Conférate 1, 1, 26, Romains 1, 1 Corinthiens 1, 1, 1 Pierre 1, 1.8 Les apôtres avaient reçu leur apostolat du Christ lui-même. Cet apostolat, qu'ils n'avaient pas reçu de main d'homme, comment auraient-ils pu le transmettre eux-mêmes à des hommes? Les déclarations de Paul dans l'Épître aux Galates, et par lesquelles il affirme son autorité d'apôtre, Galates 1, 1, 2, 7 à 9, s'appliquent aux douze choisis pour recevoir des révélations du Père. Car sinon, quelles forces peuvent-elles constituer si l'apostolat peut être reçu par une autorité humaine? En Galates, Paul ne cherche-t-il pas à affirmer son autorité d'apôtre, et donc l'autorité de son enseignement, face à ceux qui ont été apôtres avant lui? Ne cherche-t-il pas à rappeler son autorité aux Galates qui se laissent troubler par un autre évangile, Galates 1, 7? Nous voyons que c'est l'Église locale tout entière, et non seulement les apôtres, qui participent au choix des diacres, des anciens, des docteurs ou des évangélistes. Les apôtres partagent, bien entendu, ce privilège, mais ce avec l'Église locale. Dans le Nouveau Testament, les apôtres participent au choix des diacres, des anciens, des docteurs ou des évangélistes, mais ni eux-mêmes, ni l'Église, n'a de pouvoir pour désigner des apôtres de Jésus-Christ. Ainsi, toute l'Église de Jérusalem participe au choix des diacres, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Actes 6, 3, 4. Ce choix des diacres de Jérusalem ne réside pas dans la décision exclusive des apôtres. Toute l'Église de Jérusalem choisit d'envoyer Paul et Barnabas à Antioche, Actes 15h22. Paul et Barnabas firent nommer, ils chargèrent les disciples de cette responsabilité, des anciens dans chaque église, Actes 14h23. Dans les épîtres de Paul à Timothée 8, les douze et l'apôtre Paul sont apôtres dans un sens unique, apôtres envoyés par Jésus. Au sens large, Jésus est aussi appelé un apôtre, Hébreux 3, 1, Paul et Barnabas sont les apôtres de l'Église d'Antioche qui les envoie, Actes 13, 3, 14, 4,14. Voyez encore le verbe apostello en Jean 1h19, 3h17, 17h18, Actes 8h14, 13h15, Romains 10h15. 2 Timothée 4h12, 1 Pierre 1h12, Apocalypse 22, 6. Voir Romains 10h15 et comment aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés, du verbe apostello. 92, et à Tite nous constatons que Tite et Timothée, à leur tour, jouent un rôle dans le choix des anciens et des diacres. Mais il ne s'agit pas là, encore une fois, d'un privilège exclusivement réservé à ces deux disciples, mais d'un privilège qu'ils partagent avec toute l'Église. En fait, l'Église primitive fonctionne comme un corps et c'est l'Église tout entière qui exerce un pouvoir de choix et de décision pour ce qui est l'exercice des ministères. Le cas du choix des diacres dans l'Église de Jérusalem, Actes 6, est sans doute un cas type dont les éléments principaux se retrouvent à travers tout le Nouveau Testament. 1. Les frères devaient eux-mêmes choisir ces hommes. 2. Ces hommes devaient remplir certaines qualifications spirituelles et être approuvés, de qui l'on rende un bon témoignage. 3. Les apôtres les ont chargés d'un emploi, et non d'un titre ecclésiastique, et que nous chargerons de cet emploi. 4. Ils furent mis à part devant tout, ce qui est indiqué par l'imposition des mains, Actes 6, 6.9. Plus tard nous trouvons des anciens dans l'église de Jérusalem, et qui sont bien distingués des apôtres, Actes 15, 2. Il y a tout lieu de croire qu'ils furent choisis selon le même processus, et c'est en tout cas ce qui est confirmé dans les autres textes où il est question des anciens. Tous les disciples participent à leur nomination, Actes 14h23, ils doivent être approuvés et remplir certaines qualifications spirituelles, 1 Timothée 3, 1 SS, 7, ils sont chargés d'un emploi, d'un travail précis à accomplir, 1 Timothée 3, 1, ils sont mis à part devant tout, confère 1 Timothée 5h22 et 3h10. La parallèle entre 1 Timothée 3, 1 à 7 et 3, 8 à 13 montre une similitude dans le choix et la consécration des anciens et des diacres. Sur ce point, l'enseignement des apôtres est clair. S'ils se trouvent dans l'église des frères zélés et qualifiés pour l'accomplissement de certaines tâches, ils doivent être mis à part par une assemblée de disciples. Nul ne prend sur lui-même une tâche, une fonction dans l'église, sans avoir été confirmé par les disciples. En ce qui concerne Timothée ou Tite, ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme des successeurs de Paul ou comme ayant été investis de son autorité. Il existe une différence fondamentale. 9. Ils étaient déjà remplis de l'Esprit et ce ne fut donc pas pour recevoir l'Esprit qu'ils reçurent l'imposition des mains, mais uniquement comme un signe de consécration. 93. Entre Timothée qui doit confier à des hommes fidèles le modèle 10 des saines paroles reçues de Paul, un apôtre, 2 Timothée 1h13, et Paul lui-même qui reçut sa doctrine, non d'un homme, mais du Christ, Galates 1h11, 12, confère Actes 9h15. C'est donc l'enseignement apostolique qui constitue le modèle des saines paroles qui doit être confié à des hommes fidèles. 11. Pourquoi fidèles? Parce que tout ce que Dieu demande des dispensateurs de la parole, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. 1 Corinthiens 4, 1 à 3. C'est cette fidélité personnelle de l'enseignant qui détermine la validité de son ministère et non l'approbation reçue d'un homme ou d'une église. Même Timothée doit veiller sur lui-même, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4h16 confère 1 Thessaloniciens 2, 3, 4. La même chose s'applique aux anciens, ils sont les pasteurs du troupeau en étant les modèles du troupeau et non en vertu d'une autorité reçue de quelqu'un d'autre ou qui leur serait propre. 1 Pierre 5, 1 à 4. Ils peuvent donc être repris et corrigés. 1 Timothée 5h20, ils peuvent apostasier. Actes 20h29, 30. Les apôtres étaient donc irremplaçables. Comme prophètes de Dieu, ils étaient inspirés et communiquaient les vérités révélées de Dieu, Romains 16h25, 26. Il n'existe pas de chaîne apostolique remontant au premier siècle du christianisme. Si des églises veulent prétendre à une chaîne apostolique, cette chaîne n'a pas son origine dans quelque chose pratiqué et enseigné par les apôtres. Mais elle peut avoir son origine dans la fausse autorité qui caractérise l'apostasie dès le début de l'église, confère. Actes 20h29, 30. 2 Corinthiens 11, 1 à 6. Midi 11. 2 Pierre 2, 1 à 3. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. 3 Jean 9,10, Apocalypse 1 à 3, E, le culte dans le modèle de l'enseignement apostolique de par l'autorité des apôtres, notre culte devra toujours faire appel à leur enseignement. Et il est bien évident que cette autorité se manifeste dans le Nouveau Testament et non dans l'Ancien, pour ceux qui sont placés sous la Nouvelle Alliance et non pour 10 grades. Hupotuposi, modèle, prototype, de tupo qui décrit ce qui est moralement et spirituellement exemplaire, Philippiens 3:17. 1 Thessaloniciens 7. 1 Timothée 4:12. 2 Thessaloniciens 3, 9, Tite 2, 7, Hébreux 8, 5, etc. 11 La précision qu'ils doivent être fidèles est d'une importance capitale, cette exigence de fidélité à la parole reçue montre bien que ces hommes ne détiennent pas une autorité en vertu d'une ordination. 94, ceux qui étaient sous l'ancienne. D'aucuns s'étonnent de cette autorité des apôtres en matière de culte tout en admettant le principe pour des questions encore plus fondamentales. Si les apôtres ont pu donner à l'Église une révélation unique de ce qui constitue l'essence même de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire au mystère de la dispensation de la grâce de Dieu, Éphésiens 3, 1 SS, il ne devrait y avoir aucune difficulté à admettre qu'ils ont aussi reçu des révélations pour le culte de ceux qui bénéficient de cette grâce. Ceux qui ont reçu des révélations sur la première chose sont naturellement attitrés pour en recevoir sur la seconde. De même, Moïse reçut-il les 10 commandements, le cœur de la loi, puis toutes les ordonnances relatives au culte, entièrement dépendant des lois et des principes écrits sur les tables de pierre. De la même manière, le culte chrétien ne peut être dissocié de la révélation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ et des apôtres qui furent choisis pour être les porte-parole de cette révélation, conféré Hébreux 2, 1 SS. L'Église primitive devait donc persévérer dans la totalité de l'enseignement apostolique, conféré Actes 2:42 SS. Le livre des Actes montre d'une manière historique que cet enseignement avait trait non seulement à la personne et à l'œuvre du Christ, mais aussi à la communion fraternelle, à la fraction du pain, aux prières. En somme, à tout ce qui concerne l'assemblée et le culte. Les épîtres fournissent le modèle doctrinal du culte qui fut le même pour toutes les églises locales. À cet égard, les épîtres complètent mais ne contredisent pas le témoignage historique. Les apôtres ne prescrivent que le chant dans la louange, la partie historique du Nouveau Testament ne montre pas des chrétiens ayant recours à des instruments. Les apôtres prescrivent une persévérance dans la fraction du pain, le récit historique du Nouveau Testament donne des exemples, conféré Actes 2:42, 20, 7 et 1 Corinthiens 11:23-26. L'étude des Écritures est continuellement encouragée, historiquement, l'Église du Nouveau Testament lui accorde d'une grande place, 1 Pierre 2, 1, 2, Hébreux 5:11-16, Actes 6, 2, 15:35, 20:20, 27. On constate, et ce quel que soit l'aspect du culte, que les apôtres eux-mêmes n'occupent pas une place privilégiée dans l'exercice communautaire du culte. Il n'y avait pas de prêtre pour officier dans les assemblées primitives et par conséquent tel n'est jamais le rôle des apôtres. Par exemple, la distribution du pain lors du repas du Seigneur, 95, n'est pas considérée comme un ministère en soi et n'est pas non plus un geste sacré réservé à une catégorie de disciples. La même constatation s'impose en ce qui concerne la prière, le chant ou les collectes. Tous ces actes de culte sont des expressions de foi ou de reconnaissance de toute l'assemblée, et bien qu'une considération spéciale soit due naturellement aux conducteurs spirituels, en particulier, aux anciens, conféré Hébreux 13:17, leur personne n'est jamais attachée d'une manière obligatoire ou absolue à un acte de culte, quel qu'il soit. Par conséquent, les disciples peuvent louer Dieu, étudier sa parole, rompre le pain là où il n'y a ni ancien, ni évangéliste, ni enseignant.